Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bienvenue dans ce nouveau carnet de région. Au sommaire cette semaine. Et nous commencerons par un sujet de 48 FM avec la première visite en Lozère pour Damien Allary, président de la région Languedoc-Roussillon. Ensuite, un reportage d'RCF Hérault avec l'inquiétude à l'orchestre de Montpellier. Place ensuite à une intervention de Radio Escapade avec le 20e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement pour le Languedoc-Roussillon qui a été présenté à Montpellier. Un bilan plutôt négatif. Radio Aviva nous emmènera cette semaine au collège des Aiguerelles à Montpellier où l'équipe pédagogique et les parents d'élèves s'inquiètent des diminutions de budget prévues à la rentrée prochaine. Nous nous intéresserons également à l'ouverture du Festival du Livre et des Mots avec Radio Bartas. Enfin, nous terminerons ce carnet de région avec un sujet d'RPH Hérault et une expo toute particulière sur un animal assez méconnu, l'hippocampe.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
Commençons donc avec ce sujet de 48 FM. La semaine dernière, Damien Allary, le président de la région Languedoc-Roussillon, effectuait sa première visite en Lozère. Une rencontre primordiale pour la ville de Mende et la communauté de communes Cœur de Lozère, car il était question de la signature du protocole de coopération entre la région, la ville et la communauté de communes, avec plus de 7 millions d'euros d'investissement à la clé. Et à l'occasion de sa venue, Damien Allary est revenu sur la future grande région et le travail effectué en coulisses avec Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées. Les deux présidents se rencontrent toutes les 3 semaines avec leurs différents services pour harmoniser les différences entre les deux régions. L'objectif étant d'établir un principe d'égalité sur tout le territoire. Et au-delà de cette harmonisation sur les statuts des employés, les primes, les aides à la jeunesse et autres, travail qui devrait selon Damien Allary prendre 3 ou 4 ans, se pose la question de savoir où vont se situer les différents pôles et sièges et la future grande préfecture. Écoutez Damien Allary au micro de Ludovic Terol de 48 FM.
On pense que Toulouse étant la 4e ville de France, bon, ça peut être Toulouse, mais nous on va demander, moi je vais demander l'hôtel de région à Montpellier. Et que les politiques qui seront votées se votent à Montpellier, que les assemblées se réunissent à Montpellier. On ne peut pas tout réunir au même endroit. Donc sinon, ça veut dire qu'on va se faire bouffer. Quoi. Et j'ai dit à mes collègues de Midi-Pyrénées que je n'en voulais pas. On est très fort en agroalimentaire. 8 milliards de chiffre d'affaires. Bon, mais l'agroalimentaire, on pourrait envisager qu'on ait une direction à Montpellier avec l'agriculture, l'agroalimentaire, et qu'il reste à Montpellier. Les problèmes de recherche, de santé, tout ça, on est aussi pas mal. On pourrait envisager que ça reste à Montpellier. Le Parlement de la mer. La mer, c'est nous qui l'avons. Le port de Sète, pour la Nouvelle, il faudra qu'ils l'utilisent. On va y gagner, parce que pour l'instant, eux, ils utilisent Barcelone comme port. Ils ont un port sec à Toulouse, qui est un hangar, pas plus. Ils stockent et ils amènent tout à Barcelone. Donc on peut maintenant penser qu'ils viendront à Sète. Et bien sûr qu'ils viendront à Sète. On peut être très fort si on s'y prend bien. Si un veut croquer l'autre ou pas être réglo, ça peut foirer. D'abord, nos peuples ne le comprendront pas et on ne réussira pas cette réforme.
Et beaucoup de travail devrait se faire en visioconférence. Concernant l'équilibre des forces, contrairement à ce qu'il se dit et la mise en avant de Toulouse, d'après Damien Allary, la région Languedoc-Roussillon part sur un pied d'égalité, voire plus.
Les deux budgets sont équivalents, les populations à rien sont équivalentes et dans quelques années, quand je vous ai dit qu'on construisait une ville de 100 000 habitants tous les 3 ans, non, on va les doubler. Donc les populations, les budgets, l'aéronautique, 6 milliards d'euros de budget, l'agroalimentaire chez nous, 8 milliards. On n'a pas rien. Donc, il faut arrêter de laisser penser que la région Languedoc-Roussillon serait un peu comme dans le rapport de force Rhône-Alpes et Auvergne. On joue à armes égales sur le papier. Et économiquement, on est à armes égales même. Il y a des fois, on est légèrement supérieur. Ils ont Toulouse, mais après, on a des grandes villes. Nous, on a un tissu de maillage. Vous partez de Perpignan, Sète, Nîmes, Montpellier, Béziers, Alès. Bon. Citez-moi des villes qui sont 150 000 habitants Toulouse, à part Toulouse.
Enfin, Ludovic Terol a demandé à Damien Allary Quelle sera la place de la Lozère dans cette nouvelle grande région?
Mais la Lozère, dans tout ça, elle est un élément important. Parce que la Lozère, comment dire, elle a sa typicité, ici il se passe des choses. La Lozère, pour moi, c'est ce que je disais à Alain Bertrand hier soir. Je lui disais, c'est pas parce qu'il n'y a que 80 000 habitants que la Lozère ne pèserait pas dans cette union. La Lozère doit peser, non pas pour ses habitants, mais pour sa superficie, pour son territoire, pour cette hyper-ruralité, pour ce qu'on peut y faire. Ici, on peut développer des choses parce qu'on a encore des espaces, puis il y a des produits. Il ne faut pas toujours raisonner en population, vous savez. Il faut raisonner aussi en territoire, parfois, et en superficie, en matière forestière, en matière... Non, la filière bois. Il y a ici des choses. Cette usine que j'ai vue ce matin, elle est implantée ici. Et elle n'arrête pas de se développer. Enfin, on prend des trucs de déchets du Danemark qui arrivent ici. Il me dit, vous vous rendez compte, ça arrive bien en Lozère. On a l'impression qu'on serait au bout du monde. Non, je pense qu'ici, on peut réaliser des choses. Que la Lozère a toute sa place, mais vraiment toute sa place en Languedoc-Roussillon. Et même, je dis, elle ne devrait pas être davantage représentée en nombre d'élus que ce qu'elle est représentée. Et c'est ce que je dis depuis le début.
Et un préfet préfigurateur devrait être prochainement nommé pour décider tout d'abord de la ville chef-lieu de la nouvelle région. Passons maintenant au reportage effectué par RCF Hérault avec l'inquiétude à l'orchestre de Montpellier. En effet, situation gelée, départ volontaire, effectif en baisse. Désormais, 85 musiciens composeront l'orchestre au lieu de 95 actuels. Suite au plan de redressement annoncé en décembre dernier, les salariés veulent être entendus. Gilles Loulier est musicien et représentant du syndicat national des artistes musiciens.
Ce qu'on attend, c'est qu'ils nous entendent. Ils nous ont déjà entendus, ils nous écoutent. Mais voilà, on a des propositions à faire que nous avons déjà en partie faites, concernant la façon de faire des économies aussi dans la maison, notamment de faire un opéra en version concert, hein, parce qu'un opéra coûte très cher, de 300 à 500 000 euros. Donc en version concert, ben, on a toute cette économie de mise en scène, de costumes, qui est assez onéreuse. On sait très bien que les opéras en version concert sont toujours aussi appréciés du public. C'est une façon aussi pour la direction de contribuer à ces économies. On ne peut pas constamment demander aux salariés de baisser les salaires, de supprimer toutes les primes, de supprimer tous les avantages acquis depuis des dizaines et des dizaines d'années, et puis dire, voilà, on fait des économies sur le dos des salariés. Nous avons proposé aussi à la direction de faire une opérette en fin d'année. Et on sait très bien qu'une opérette qui sera programmée 6, 8, 10 fois, on remplira la salle à chaque fois. Donc c'est aussi une façon de faire entrer des recettes propres, puisqu'on nous demande aussi d'avoir plus de recettes propres. Donc on fait ces propositions, mais qui sont entendues, mais ça en reste là. Voilà.
Gilles Loulier, musicien à l'orchestre de Montpellier et représentant du syndicat national des artistes musiciens, au micro de Lauriane Havard pour RCF Hérault. À présent, passons à une interview proposée par Radio Escapade. Mardi 10 mars, l'agence régionale Languedoc-Roussillon de la Fondation Abbé Pierre a présenté les chiffres de 2014 et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne s'améliore pas. La région compte 33 bidonvilles et 8200 sans domicile stable, comprenés en hébergement d'urgence ou en logement relais. La région est dans le top 3 de la pauvreté en France. La région qui, depuis 10 ans, attire 30 000 habitants supplémentaires en moyenne chaque année, doit trouver des solutions pour résoudre la crise du logement. Écoutons Frédéric Moser, délégué régional pour la Fondation Abbé Pierre, qui explique par téléphone à Rémi Goujon de Radio Escapade les spécificités de notre région et les solutions qui existent pour sortir de cette crise du logement.
C'est une des caractéristiques de la région, c'est qu'on a un parc privé important. Beaucoup de personnes qui vont se loger dans le parc privé avec des loyers très chers parce qu'ils ne trouvent pas de logement dans le parc social, qui lui est assez modeste en nombre. Et du coup, ça nous donne effectivement un certain nombre de logements qui sont soit des résidences secondaires, soit des logements peu entretenus, soit des logements qui nécessiteraient des travaux pour lutter contre la précarité énergétique et baisser le coût des charges. Et souvent, bien souvent, les propriétaires ou les locataires n'ont pas les moyens de ces travaux, ce qui effectivement donne un potentiel d'habitat dégradé, voire d'habitat insalubre, assez important sur le secteur. On a à peu près 10% du parc sur la région qui relève potentiellement de l'habitat indigne. Donc c'est un chiffre très important. C'est pas parce qu'on alerte que les choses changent. Il y a eu un certain nombre de programmes qui se sont enchaînés d'année en année, des mesures gouvernementales qui ont été prises à certaines périodes, la loi Allure qui est venue donner des outils supplémentaires pour permettre de produire du logement. Le problème, c'est qu'effectivement, les responsabilités sont partagées entre les financements de l'État, les autorisations des collectivités, les cautions de prêts à trouver, les problématiques de foncier, les équilibres d'opération. Enfin, tout ça est très lourd et très long. Et effectivement, si chacun à son niveau n'assume pas sa responsabilité et ne remplit pas les obligations qui sont les siennes, on est bloqué. On peut prendre pour seul exemple le respect des objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose 20 jusqu'à ces dernières années, 25% maintenant, à partir de 2016, de logements sociaux dans les villes de plus de 3500 habitants. Dans notre région, par exemple, 35 communes ne respectent pas cet objectif et 35 communes pourraient faire l'objet de pénalités de l'État parce qu'elles sont hors la loi. Donc, à partir du moment où il y a un outillage juridique, il faut que chacun puisse s'en saisir et faire les efforts nécessaires pour produire davantage. Sinon, effectivement, on ne sortira pas de cette période de crise.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Après ce sujet de Radio Escapade, retrouvons celui de Radio Aviva. À Montpellier, cette semaine, certains collèges ont arrêté de fonctionner suite à la mobilisation de leur équipe pédagogique et des parents d'élèves. Marion Doudin et Gilles Geoffrey sont allés rencontrer les acteurs de cette mobilisation. Voici leur reportage réalisé par Radio Aviva.
Depuis lundi 16 mars, des parents d'élèves et des membres de l'équipe éducative de plusieurs collèges de Montpellier se mobilisent en bloquant leur établissement et en manifestant. En cause, l'annonce de la baisse des moyens alloués à leur établissement par le rectorat pour la rentrée prochaine. Une décision qui aurait de nombreuses conséquences pour ces établissements. Exemple, au collège des Aigrelles, où Yves Cardin, professeur d'éducation physique et sportive, est très inquiet. Il le fait savoir au micro de Marion Doudin.
Ici, tout marche. Et tout ce qui marche nous a été supprimé. Donc on ne peut être qu'en colère. Parce qu'on nous supprime la section sportive escalade, la CHAP qui est la classe à horaire aménagé d'art plastique, on nous supprime des moyens en section internationale, on nous supprime des moyens en européenne, on nous supprime l'aide aux devoirs, on nous supprime l'accompagnement éducatif. Et nous ici, on a des parents qui ont déménagé pour pouvoir bénéficier de ces mesures. Et bien si on retire ça, ces parents iront ailleurs.
Au-delà de la disparition de certaines options, parents d'élèves et équipes pédagogiques du Collège des Aigrelles voient dans cette diminution de budget une menace sur le rôle républicain de leur établissement à créer la mixité des classes sociales. Viviane Alric est professeure de lettres. Elle répond à Marion Doudin.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dispositifs spécifiques nous permettaient de réaliser au sein du collège une vraie mixité sociale. Ce qui donnait à notre action, à notre travail d'enseignant, une vraie dimension républicaine. Dans la mesure où ces dispositifs disparaissent, nous perdons une partie de notre public et nous avons bien peur qu'en très peu d'années, le collège se ghettoise. Voilà. Donc c'est au-delà de notre problème de fonctionnement, c'est le devenir des écoles du secteur et le devenir du quartier qui est en cause.
Après avoir bloqué leur établissement lundi, les parents d'élèves et les membres de l'équipe pédagogique sont allés manifester mercredi sur la place de la Comédie, après quoi une délégation a été reçue au rectorat. À l'heure de boucler ce sujet, on ne connaît pas encore la réponse apportée par le rectorat à leurs interrogations.
Revenons en Lozère à présent avec Radio Bartas. À noter que le 31 mars prochain sera la date d'ouverture du Festival du Livre et des Mots à Florac. Un rendez-vous culturel incontournable du sud Lozère qui permet à chacun de plonger dans le monde de la lecture avec un beau panel d'auteurs, d'illustrateurs et de professionnels du livre. Eva Collin, une des organisatrices de cet événement, nous a présenté les temps forts de ce festival.
Le 31 mars prochain sera la date d'ouverture du Festival du Livre et des Mots à Florac, un rendez-vous culturel incontournable du sud Lozère qui favorise les échanges humains et permet à chacun de plonger dans le monde du livre et de la lecture. Eva Collin, une des organisatrices de cet événement, nous a présenté au micro de Radio Bartas le Festival du Livre et des Mots.
Donc ce Festival du Livre et des Mots qui a lieu à Florac, pour cette deuxième édition, les 3 et 4 avril, vendredi 3 et samedi 4 avril 2015, Et donc un festival assez général sur le livre qui présente des auteurs, des éditeurs, qui essayent d'inciter à la rencontre directe du public avec les personnes du monde du livre, les livres directement, les mots et plein d'animations autour aussi, qu'elles soient musicales, ateliers, de création. Voilà. C'est un festival qui a été initié par la municipalité, donc la première édition en 2013, qui persiste aujourd'hui, en s'appuyant sur la bibliothèque aussi pour l'organisation, co-organisation pour la journée professionnelle Supagro aussi, et différentes associations, les amis de la bibliothèque de Florac, Bar Parallèle, Libro Kiosque à Hispaniac, entre autres, et un comité de bénévoles aussi. Les temps forts du festival, on va commencer peut-être par parler des deux expositions qui sont visibles tout le mois de mars à la bibliothèque et la seconde à la Nouvelle Dimension. La soirée d'ouverture le mardi 31 mars avec l'accueil d'un poète et d'un peintre, Joël Vernet, Jean-Gilles Bader, à 18h30 à la bibliothèque. Le vendredi 3, la matinée de rencontres interprofessionnelles sur le thème du numérique, au-delà du pour et contre, mais plutôt qu'est-ce que on peut faire de cet outil justement et des clés de pensée par différents professionnels du livre, auteurs, éditeurs, notamment bibliothécaires aussi, et l'ouverture du salon dès vendredi 14h. Donc des lectures d'auteurs par eux-mêmes toute la journée à différents moments et des ateliers aussi, ateliers de fabrication, d'illustration, ateliers BD et un atelier d'écriture qui peut donner lieu aussi le journal du festival, éventuellement à une publication numérique. On finit la journée du vendredi en lecture avec Francis Combe. Ensuite, un spectacle à la Jeunette Verte, tout public, un spectacle poétique, tout en musique et avec marionnettes. Le salon du samedi s'ouvrira en matinée avec la lecture directement par sa voix même de Franck Pavlov, qui nous lira un extrait de L'Enfant des Marges, un livre de la rentrée littéraire qu'il a écrit dernièrement, avec Jean-Paul Chabrol aussi ensuite qui nous lira un texte, et le duo contrebasse et clarinette-clarinette-basse Thierry Cutel et Pierre Lassailly, le duo Limoncello. Donc un rappel des dates: mardi 31, soirée d'ouverture, vendredi 3, samedi 4, et aussi que chacun le note, toutes les animations et tous les moments sont gratuits, ouverts à tous. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la bibliothèque municipale de Florac au 04 66 45 11 94 ou retrouver toutes les informations sur la page Bibliothèque Florac Blogspot Festival du Livre. Merci.
Enfin, voici un sujet de RPH Héros, avec une exposition toute particulière sur un animal assez méconnu, l'hippocampe, intitulée simplement Hippocampe, à voir jusqu'au 17 avril à 7. Le bassin de Thaux est encore un des rares endroits de France et d'Europe à accueillir une population d'hippocampe. Cette exposition est une initiative du programme Hippo-Thaux, qui pendant 9 années a accumulé les données scientifiques sur ce curieux poisson. Composé de 160 bénévoles par an, il aboutit aujourd'hui à cette exposition, une façon efficace de promouvoir le territoire, mais qui révèle aussi la spécificité des hippocampes de ce secteur. Émilie Varro, directrice du CPIE du bassin de Thaux, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, au micro d'Adrien Delgrange et Mathieu Télène de Radio Pays d'Hérault.
Les hippocampes de Thaux, c'est plus qu'incroyable puisqu'on vient de découvrir depuis cet été. Alors c'est un petit peu grâce à Hippo-Thaux puisqu'on a collecté des petits bouts de nageoires sur nos hippocampes et qu'on a donné à des scientifiques, voilà, de 7, des généticiens qui ont travaillé et qui se sont aperçus que génétiquement l'hippocampe de Thaux est unique. C'est-à-dire que non seulement on a des hippocampes, mais qui ne sont pas les mêmes que sur la façade méditerranéenne. Ce qui est quand même incroyable, ça veut dire qu'on a une espèce qui est quasiment endémique de l'étang de Thaux, donc un vrai bijou à préserver, qui ne va pas trop mal, qui s'est requinqué un petit peu sur ces dernières années, qui a connu des fluctuations, certaines naturelles, d'autres pas. Voilà, qui n'a pas une grosse surpêche, mais voilà, qui est extrêmement lié, comme beaucoup d'espèces, à la fragilité de son milieu.
Une boîte bleue de 90 mètres carrés englobe plusieurs secteurs, comme sa biologie par exemple, les informations sur la famille entière des hippocampes ou enfin les menaces pesant sur l'espèce et ses solutions face à ces dangers. L'exposition Hippocampe, élu projet coup de cœur de la Fondation Nicolas Hulot, est à voir à 7, sur les quais à l'espace Paul Boyer, ouverture tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h. Voilà pour ce reportage de RPH Hérault. C'était Nathalie de Radio Margeride qui était heureuse d'être aux commandes de ce carnet de région. Attention, la semaine prochaine, c'est Radio Bartas qui prendra le relais de la rédaction en chef de ce magazine hebdomadaire.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.